Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, qui doit financer la dépendance ? Et si le jeudi de l'Ascension finissait par ne plus être chômé, pour être transformé en journée de solidarité, comme le fut autrefois, avec un résultat mitigé, il est vrai, le lundi de Pentecôte. Alors autant le dire tout de suite, aucun projet aussi précis n'existe à ce stade, mais l'idée d'une deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance, elle, est bien dans l'air. Emmanuel Macron y a pensé tout haut, lors de sa mémorable interview par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin le mois dernier. Nous avons, a expliqué le chef de l'État, 1,5 million de personnes qui ont plus de 85 ans. À l'horizon 2050, ce sera 5 millions. Il nous faudra construire soit des jours consacrés à ce risque, Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac l'avaient proposé par le passé, ça peut être une option, soit des mécanismes de sécurité sociale. Fin de citation. Alors ce qui est certain, c'est que les perspectives démographiques rendent intenable le maintien à son niveau actuel du financement de la dépendance. Les besoins d'encadrement notamment sont immenses. Des pistes existent depuis des années, notamment l'idée de créer une cinquième branche de la sécurité sociale au nom de la sécurité et de la solidarité surtout collective. Certains préconisent plutôt le recours obligatoire à des assurances. Alors qui doit financer la dépendance ? C'est la question du soir, en compagnie de trois invités. Nora Béra, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, ancienne secrétaire d'État chargée des aînés, vous l'avez été de 2009 à 2010, puis secrétaire d'État chargée de la santé, c'était de 2010 à 2012. Pour discuter avec vous, Brigitte Dormont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeure à l'Université Paris-Dauphine, vous dirigez le laboratoire d'économie et de gestion des systèmes de santé. Et puis notre troisième invité, elle est au téléphone, il s'agit de Joëlle Le Gall, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Gardette.
Vous êtes la présidente d'honneur de la FNAPAF, la Fédération nationale des associations et des. Et des amis des personnes âgées et de leurs familles.
Voilà.
J'y suis arrivé. Et vous défendez la création d'un cinquième risque de la sécurité sociale pour financer la dépendance, enfin, plutôt, devrais-je dire, pour financer la perte d'autonomie. C'est une appellation que vous préférez à celle de dépendance, Joëlle Le Gall.
Oui, bien évidemment. Si vous voulez, le mot dépendance pour nous ne veut pas dire, enfin, il dit beaucoup de choses, mais il ne doit pas s'attacher à une personne âgée de plus de 60 ans qui rencontre une maladie invalidante. On est dépendant à tout âge, on peut avoir un problème de santé à tout âge. C'est pourquoi nous demandons que tout citoyen en perte d'autonomie de la naissance à la fin de sa vie puisse recevoir un financement approprié à la perte d'autonomie qui l'empêche de faire les gestes de la vie, qui le maintient hein, dans la vie, et donc supprimer cette barrière de l'âge que nous avons à 60 ans, qui est très discriminante pour les citoyens qui ont passé 60 et qui ont des financements moindres. Si vous avez un AVC à 59 ans et 365 jours, vous allez toucher la PCH, qui va vous donner 4 fois plus que si vous avez la même maladie à 60 ans et un jour, vous allez toucher l'APA et vous allez avoir des aides qui sont 4 fois moins importantes. Donc, c'est très discriminant. Et en plus, j'ajouterais que l'on demande régulièrement des efforts financiers aux personnes âgées qui sont inacceptables, puisqu'on sait qu'une personne âgée qui rentre en établissement doit utiliser tous ses revenus, alors que quand elle va dans un EHPAD, ben, malheureusement, c'est qu'elle est au bout du bout et qu'elle y est obligée par une maladie invalidante et bien sûr des polypathologies quand on vieillit qui s'ajoutent à la maladie invalidante, voilà, et en plus on leur fait payer la CASA, qui est la contribution additionnelle.
Alors ne dites pas tout de suite, Joëlle Le Gall, mais c'est vrai que c'est intéressant en fait de comprendre que au-delà du symbole, le fait de qualifier, de parler de perte d'autonomie ou de dépendance, ça a un certain nombre de conséquences. C'est vrai qu'on peut être en perte d'autonomie à n'importe quel âge de sa vie. Reste quand même que, on va dire que les probabilités pour que ça nous arrive sont de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Le nombre des plus de 85 ans, alors ça dépend un petit peu des projections, mais en gros, on estime qu'il va tripler ce nombre-là au cours des 30 prochaines années. Est-ce que ça veut forcément dire, Brigitte Dormont, qu'il y aura de plus en plus de personnes, en tout cas à l'avenir, qui se trouveront en situation de perte d'autonomie et que donc, il y aura de plus en plus de besoins pour financer cette question ?
Alors, il y a des travaux de prévision qui ont été menés.
qui cherchent à évaluer les choses qui peuvent arriver dans le futur. Alors il y a deux éléments hein, qui vont conduire à des besoins croissants. Il y a le fait que la longévité s'accroît, donc nous vivons plus vieux dans de plus grandes proportions. Mais surtout, il y a la vague des baby-boomers, qui est une vague, une génération très nombreuse qui commence à dépasser la soixantaine actuellement. Donc on sait que dans 20-30 ans, cette vague démographique très nombreuse arrivera aux âges où la dépendance peut intervenir. Et donc, on est sûr qu'il va y avoir des besoins très importants, peut-être de manière transitoire, pas définitivement, mais des besoins très importants qui vont arriver, à la fois parce qu'il y a plus de personnes âgées, pour des raisons démographiques, le baby boom, mais aussi à cause des gains de longévité. Alors, est-ce que les besoins vont augmenter? Donc, ce qui a été évalué avec des prévisions très conservatrices, hein, sans beaucoup d'audace dans les prévisions, c'est que quand même, le nombre de personnes dépendantes doublerait presque. Hein. On a 1,3 million de personnes dépendantes actuellement, et à l'horizon 2060, on prévoit 2,4 millions. Donc, moi,
Quand vous dites conservatrice, qu'est-ce que ça veut dire?
Enfin, ils n'ont pas fait d'hypothèse audacieuse d'amélioration de l'état de santé, comme vous l'avez dit. Alors, il y a quelques résultats statistiques qui disent qu'il y a une vague amélioration de l'état de santé des personnes à âge donné, mais on pense sincèrement, mais il y a des résultats très contradictoires. Personne ne pense qu'on peut faire des hypothèses optimistes sur la question. Alors, je voudrais ajouter sur les besoins, qu'on en reparlera peut-être, mais sur le constat actuel, il y a de très nombreuses critiques à adresser à la situation actuelle qui font qu'il faudrait sans doute augmenter l'effort national en faveur de la prise en charge de la dépendance dès maintenant. Et les prévisions que je donne sont faites dans l'hypothèse où l'effort public diminuerait un petit peu en pourcentage. Donc on est très 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 loin du compte et on pense que les besoins sont insatisfaisants, ne sont pas bien couverts de manière satisfaisante actuellement. Et qu'en plus, ils vont augmenter quantitativement.
Ah, c'est vrai que c'est important.
Quelque chose à faire.
Nora Berra, c'est-à-dire de se dire la question de la dépendance, c'est pas juste une anticipation de changements démographiques qui vont être importants dans les années à venir, mais c'est aussi une urgence aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir comment financer. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'aujourd'hui, la façon dont on finance l'indépendance, la perte d'autonomie, c'est un système qui est à peu près satisfaisant, ou bien est-ce qu'il y a un certain nombre de manquements, de lacunes?
Alors, beaucoup de questions dans votre question. En réalité, je voudrais dire une première chose, c'est que nous sommes véritablement confrontés à un problème sociétal. Et ce problème sociétal, on y met en face un problème arithmétique pour savoir comment nous allons financer ou apporter une protection sociale supplémentaire vis-à-vis de cette perte d'autonomie. En réalité, on s'occupe des moyens, on se focalise sur les moyens et on se préoccupe moins des objectifs qu'on veut atteindre collectivement. C'est qu'est-ce qu'on veut? On veut, et Madame Dormont abordait tout à l'heure un petit peu, c'est on veut vieillir plus longtemps, mais en bonne santé. Et donc, bien sûr qu'aujourd'hui, nous avons à prendre en charge nos aînés dépendants ou fragiles. Il ne faut pas oublier aussi la question de la fragilité. Mais comment on fait pour que plus tard, effectivement, les chiffres qui nous sont avancés soient peut-être revus à la baisse grâce à des méthodes de prévention? C'est qu'est-ce qu'on attend de notre engagement collectif, effectivement, pour diminuer cette prévalence de la dépendance. Alors, sur la question du système aujourd'hui tel qu'il est, je dirais que heureusement que depuis 2003, nous avons l'aide personnalisée pour l'autonomie, mais qui rencontre aujourd'hui, tout le monde le sait, un certain nombre de difficultés. Cette enveloppe qui avoisine les 5,6 milliards d'euros versés au département grâce à la journée de solidarité et une petite partie de la CSG finance en effet la perte d'autonomie à domicile ou en établissement. Mais on voit bien que les départements aujourd'hui sont à bout de souffle. Pourquoi? Parce que les chiffres aujourd'hui montrent que nous sommes de plus en plus nombreux à atteindre un âge avancé, à perdre de l'autonomie, mais que la ressource, elle ne va pas elle n'est pas à la hauteur, effectivement, de cette progression.
Est-ce que vous êtes juste d'accord avec ça? Je reviens vers Joël Le Gall et je reviens vers vous ensuite, Nora Béra. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça pour dire que les ressources aujourd'hui pour financer la perte d'autonomie ne sont pas suffisantes et que cette fameuse APA devrait peut-être être quoi, revalorisée pour couvrir davantage les besoins?
C'est pas, il faut qu'un jour, un président, on attend ça depuis plus de 10 ans, ait le courage de remettre à plat l'ensemble du système. Et on voit bien aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en janvier, février, mars, les EHPAD sont exsangues. Les familles n'en peuvent plus, le personnel n'en peut plus, les personnes âgées qui sont au centre du débat ne sont pas accompagnées, loin de là, selon leurs réels besoins. Donc tout le monde le sait qu'il y a aujourd'hui un énorme décalage entre le financement qui est apporté en ce moment par les différents gouvernements successifs et la réalité du terrain. Alors, vous ne me ferez pas parler de personnes âgées dépendantes, moi je parle de personnes en situation de perte d'autonomie. Donc, il faut avant tout remettre à plat l'ensemble d'un système. Il ne faut pas, comme le dit le président Macron, parler d'un cinquième risque de la dépendance. Il faut parler d'un cinquième risque qui provoque une allocation unique par le biais d'un droit universel à l'aide à l'autonomie et qui puisse apporter une compensation financière à tout citoyen en perte d'autonomie en fonction de ses réels besoins. Et là, on voit effectivement que les besoins d'un enfant handicapé de 10, de 15, de 20 ans seront beaucoup plus importants que les besoins d'une personne âgée, parce que finalement, les personnes âgées qui sont en situation de très très lourde perte d'autonomie aujourd'hui, elles ne sont pas majoritaires. Celles que nous retrouvons dans les EHPAD et celles qui sont à domicile, elles ne sont pas majoritaires dans la population âgée. Il y a beaucoup plus de personnes âgées aujourd'hui qui meurent en un mois ou en 3 mois à l'hôpital, ou avec une grande chance, quelquefois, on meurt dans son lit d'un arrêt du cœur. Bon, et on est chez soi. Mais c'est là aussi où il y a tromperie. On n'arrête pas de nous dire que les gens âgés et très âgés coûtent cher. Et ça n'est pas vrai. Les gens âgés ne coûtent, d'ailleurs il y a eu des études de fait à ce propos, ne coûtent pas plus cher que des gens de 50 ans qui sont à accompagner dans la santé. Donc il faut remettre les choses à leur place, il faut supprimer impérativement cette barrière de l'âge, il faut alors repenser des financements, oui bien sûr il faut repenser des financements, mais pourquoi ne pas mettre en place une cotisation publique obligatoire prélevée sur tous les gens qui travaillent?
Eh bien, on va poser la question justement à nos deux autres invités, Nora Béra et Brigitte Dormont. Je change un peu l'ordre. Allez, Nora Béra, sur cette question, sur cette proposition de Joël Le Gall.
Je suis totalement d'accord pour remettre le système complètement à plat. Quand on voit que les contributions aujourd'hui sociales reposent sur l'activité et donc sur le travail, on voit bien que le rapport actif personne âgée retraitée est en train de devenir complètement paritaire. Et donc, ça pose un véritable problème de financement. Donc, partant de ce constat, de façon inéluctable, il va falloir être innovant. Innovant, apporter un nouveau dispositif. Alors, la question, le débat se porte entre une cinquième branche de la sécurité sociale ou essayer de créer quelque chose de nouveau. Moi, je suis plutôt...
Ou cette deuxième journée de solidarité qui a été évoquée par le président de la République.
Alors, le président de la République, lorsqu'on lui a posé la question, il a parlé de cinquième risque, de façon un peu à l'emporte-pièce, je dirais. Et il a parlé de la deuxième journée de solidarité. Mais je le disais tout à l'heure, on est sur des questions de moyens. Or, on ne parle pas des objectifs et de ce qu'on veut vraiment pour notre société. Et ça démontrait en tout cas que le président n'était pas préparé pour répondre à cette question. Il n'était pas préparé. Donc moi, ce que je préconise, c'est plutôt un système où nous garderions effectivement l'APA, qui permet d'assurer cette couverture universelle aux personnes en perte d'autonomie.
Allocation personnalisée d'autonomie, je le rappelle, l'APA.
Absolument. Et d'être innovant, d'apporter non pas un système assurantiel tel qu'il existe aujourd'hui, rappelons que 5 millions de nos concitoyens ont souscrit des assurances, mais c'est une véritable usine à gaz, avec des délais de carence incroyables, avec lorsque l'autonomie arrive avec au lendemain d'un accident, et bien il y a des prises en charge qui ne sont pas optimales. Donc il y a des bémols, en tout cas beaucoup de critiques à émettre sur ce genre de système. Je préconiserais plutôt un système hybride qui serait une contribution, en tout cas obligatoire, en effet, mais obligatoire, mais qui ne serait pas sur le même modèle que les autres branches de la sécurité sociale. Mais en tout cas, un modèle assurantiel mixte, hybride entre l'assurance et un système mutualiste qui permet de collecter des fonds et qui ensuite permet de délivrer des rentes aux personnes en autonomie, de mettre en place un fonds de garantie pour les personnes qui sont dépendantes dès aujourd'hui qui n'auront pas à cotiser, de dégager de l'argent aussi pour mettre en place des véritables politiques de prévention.
Brigitte Dormont-Vert, quel modèle alors vous irez votre préférence? Est-ce que ce serait purement mutualiste avec cette fameuse cinquième branche?
Je pense qu'il faut quand même parler de l'existant pour dire où sont les problèmes. Parce que là, on parle globalement de l'APA. Alors que la prise en charge de la dépendance, donc je souscris tout à fait à ce qui a été dit sur le fait que se concentrer sur les personnes âgées, ça n'est qu'une partie du problème, mais je le fais à titre de simplification, parce que c'est déjà très compliqué, mais je suis d'accord avec ce que dit Joël Le Gall sur cette question. Donc pour les personnes âgées qui sont dépendantes, en fait, il y a trois budgets qui sont des surcoûts liés à la dépendance. Donc il y a les dépenses de santé, je passe dessus parce que c'est
l'assurance maladie qui s'en charge.
Sociale, voilà.
Donc il n'y a pas de problème de financement en soi.
Et donc ce financement obéit à des principes, qui sont vraiment des principes de l'assurance sociale, c'est-à-dire chacun cotise en fonction de ses revenus et reçoit des prestations en fonction de ses besoins. Maintenant, pour la partie dépendance, la partie prise en charge de l'autonomie, il faut savoir ce que c'est que les problèmes de dépendance. C'est uniquement des services à la personne. Les personnes ont besoin de quelqu'un qui les encadre, qui les aide à faire la toilette, à manger, à faire leurs courses, etc. Ça dépend du niveau de dépendance de la personne. Donc, c'est du salaire. Hein. Les coûts associés à la prise en charge de l'autonomie, c'est du salaire. Donc, l'allocation, l'APA, sert à couvrir ces dépenses de dépendance. Et que la personne soit à domicile ou en institution. Alors, en institution, les gens sont couverts par l'APA. Et l'APA, il faut bien savoir que c'est quelque chose qui n'est pas véritablement une assurance sociale. C'est quelque chose qui est à mi-parcours entre l'assistance et l'assurance. C'est une prestation universelle, donc là, ça ressemble plutôt à de l'assurance, c'est-à-dire que tout le monde a le droit, il n'y a pas de conditions de ressources pour accéder à l'APA.
Sauf que son niveau dépend des revenus.
Dépend du revenu des individus. Donc, de ce fait, en France, comparé à l'Allemagne, il y a véritablement, comme en Allemagne, une prise en charge publique des problèmes de dépendance, mais contrairement à l'Allemagne, les prestations décroissent en fonction du revenu, alors qu'en Allemagne, les prestations dépendent des besoins et sont indépendantes du revenu. Donc, on a ça. Mais surtout, le troisième étage,
l'hébergement.
Qui est vraiment l'hébergement. C'est-à-dire, si les personnes vont en maison, en EHPAD, elles doivent payer un hébergement avec des frais à la charge des individus, on dit le reste à charge, qui dépassent pour plus de la moitié des individus le niveau de leurs ressources. Donc, l'hébergement, il faut savoir qu'il n'y a aucune solidarité en France sur l'hébergement. Quasiment aucune. C'est-à-dire que les gens y vont de leur poche, eux ou leur famille. S'ils sont trop dépourvus de ressources, si leurs enfants ne paient pas, ils ont droit à l'aide sociale départementale qui fait une récupération sur succession. Donc il n'y a aucune solidarité en France sur l'hébergement. Alors pour modérer la critique franco-française, en Allemagne c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle de cinquième risque, il n'y a pas de couverture pour l'hébergement. Mais surtout, donc je finis là-dessus, donc là on ne parle que d'argent, mais en fait, et je rejoins la question sur qu'il y a vraiment un problème de société actuellement, c'est-à-dire que les personnes âgées sont dans la plupart des EHPAD prises en charge de manière indigne. On les rend incontinentes en leur mettant des couches si elles n'en ont pas besoin. On les nourrit à la va-vite. Elles ont des problèmes. Elles sont bourrées de somnifères pour pas déranger le personnel. Et ça, parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans les EHPAD. Donc la qualité des soins dans les EHPAD est à un niveau catastrophique en France. Donc il y a beaucoup de disparités, mais il y a quand même beaucoup de choses qui remontent et le mouvement dans les EHPAD l'a bien montré. Il y a un niveau catastrophique qui apparaît dans les statistiques, c'est-à-dire le taux d'encadrement, le nombre de salariés par personne prise en charge est très bas, beaucoup plus bas qu'en Allemagne, en Suisse, en Hollande, etc. Et donc là, il n'y a pas de miracle, hein, comme c'est des questions de service à la personne. Si vous avez très peu d'encadrants par résident, la qualité des soins est totalement dégradé. Donc le problème actuel, ce n'est pas qu'un problème de financement, c'est un problème de niveau de qualité des soins que nous voulons dans les établissements.
Oui, mais du coup, si on veut une meilleure qualité des soins, ça suppose davantage de financement. Alors, ce que vous nous dites, c'est
pas
que déjà...
Pas seulement.
En tout cas, déjà, oui. L'accès aux EHPAD est quelque chose qui est cher, qui dépasse souvent d'ailleurs ce que peut être la pension d'un retraité. Donc, évidemment, il faut apporter de l'argent en plus. Mais que si on veut améliorer encore la qualité de soins et l'encadrement des personnes qui sont accueillies dans les EHPAD, il va falloir faire des efforts budgétaires. Donc, ça va renchérir encore les EHPAD. On a presque l'impression que... une forme de cercle vicieux, Nora Béra.
Mais en effet, c'est-à-dire que la question du financement, elle est évidemment centrale parce que il y a un véritable besoin de solvabilisation des personnes âgées. En fait, des personnes en perte d'autonomie, si vous préférez. Il y a trois volets à cette solvabilisation. On l'a dit, le reste à charge pour la dépendance, le reste à charge pour le soin. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un reste à charge pour le soin. C'est-à-dire que les personnes qui se soient...
L'APA ne couvre pas tout.
Non, c'est de l'assurance maladie.
Oui, l'assurance maladie, pardonnez-moi.
Ne couvre que la dépendance. Oui. L'assurance maladie couvre les soins, mais aussi dans les soins, il y a un reste à charge. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, on ne l'a pas dit. Et il y a en effet le reste à charge hébergement. Donc, il y a trois volets à la solvabilisation des personnes. Le besoin, il est énorme, parce que l'APA ne permet pas de combler, en effet, le manque, en tout cas pour les personnes qui s'achètent, en tout cas qui ont des aides à domicile, parce qu'il y a un reste à charge en fonction du degré de dépendance, parce qu'en hébergement, eh bien, c'est en moyenne 2000 euros de reste à charge par mois pour les personnes qui sont en institution. Et c'est ça, en fait. Et quand vous regardez, si vous voulez, d'un point de vue global, c'est un besoin d'à peu près 10 milliards d'euros par an. Donc quand on lance, comme le président Macron l'a fait, une deuxième journée de solidarité, on est bien, bien en deçà des besoins. Et donc c'est vraiment une question où on doit remettre le système à plat, où on doit adopter, en tout cas, une démarche intégrée entre... l'approche de la dépendance et du reste à charge, la prévention, bien sûr, les politiques de prévention et le développement de l'économie du vieillissement, parce qu'on oublie toujours que le vieillissement génère une véritable économie, on appelait ça la silver economy, mais il y a des potentialités infinies avec les nouvelles technologies, avec des nouveaux services, avec des nouveaux dispositifs qui peuvent venir en aide aux personnes âgées et qui sont des véritables leviers de croissance. Donc le vieillissement, la vieillesse rapporte aussi à la collectivité, il ne faut pas le négliger.
Joëlle Le Gall.
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, bon, c'est vrai qu'entre Madame Dormont et Madame Béra, on a des points d'accord, c'est évident. Merci Madame Dormont de reparler de l'APA et Madame Béra également. Moi, je voudrais repartir sur deux ou trois points qui me semblent importants. L'APA, on en parle. L'APA, je vous le disais tout à l'heure, quand vous faites votre AVC à 60 ans et un jour, vous allez toucher, je pense que la moyenne nationale, hein, parce qu'elle est injuste, cette APA, d'un département à l'autre, elle n'a pas tout à fait le même montant, hein, si vous êtes dans un département riche ou un département pauvre. Bon. Mais l'APA, c'est quoi? L'APA, ça répond à 2 heures par jour, à 2 heures par jour d'accompagnement d'une personne qui est en très lourde perte d'autonomie, c'est-à-dire grabataire. Pour toucher le maximum d'APA, il faut être grabataire. Donc vous imaginez un petit peu la situation. Bon, quand vous êtes en établissement, l'APA, bien sûr, c'est un gros problème, et vous l'avez soulevé, je crois que c'est vous, Madame Béra, qui l'avez soulevé, les départements sont exsangues. Ils ne peuvent plus financer, à tel point que l'Essonne avait refusé, je crois, il y a quelques mois, de continuer à payer l'APA. Alors c'est vrai, dans l'EHPAD, la personne âgée, aidée par sa famille les 3/4 du temps, supporte 60% du budget de financement de son établissement. Bon, c'est une chose. Toute cette population qui va arriver demain, on va avoir des gens déjà abîmés par la vie, malheureusement, le chômage qui engendre des problèmes de santé, qui engendre des décalages au niveau du social. Tout ce wagon va arriver dans 10 ans. Bon, est-ce que ces gens-là auront la possibilité d'aller dans un établissement le jour où ils auront la malchance de rencontrer une maladie invalidante, Alzheimer, sclérose en plaques, AVC, Parkinson et j'en passe? Est-ce qu'ils auront les moyens de financer leur établissement? Moi, j'ai l'impression que personne...
Pourquoi l'aurait-il aujourd'hui et ne l'aurait-il pas d'ici 10 ans, Joëlle Le Gall?
Pardon ?
Pourquoi l'aurait-il aujourd'hui, cette possibilité ? Pourquoi est-ce qu'il l'aurait moins d'ici 10 ans ? Sauf à considérer que, justement, cette charge de 60% finalement du coût est une proportion qui vous paraît trop élevée.
Mais ils n'ont pas aujourd'hui les moyens. Moi, toutes les familles que nous recevons au niveau de la FNAPAEF, au niveau du Finistère, au niveau de la Bretagne, ce sont des familles qui, financement, sont prises à la gorge quand il y a un parent qui ne peut plus rester chez lui par manque de financement, sans compter que quelques familles les maintiennent quand même chez eux parce qu'ils se disent après on va nous ponctionner nos revenus, on va nous ponctionner de l'argent, on veut pas. Donc les personnes âgées restent là et celles qui partent en EHPAD, il y a très peu de retraites aujourd'hui qui sont à 2 200 €. Et 2 200 €, c'est même pas une moyenne. Moi, sur le territoire de Rennes, on a des établissements à 2005, 2006, 2007. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que les personnes âgées et les familles qui sont dans des situations catastrophiques. Il y a le personnel qui est dans des situations catastrophiques aujourd'hui. Ça veut dire des milliers de personnes qui sont en souffrance. Parce que dans les EHPAD, si on prend pas des patins à roulettes par d'une chambre à l'autre, on n'y arrive pas. Alors, c'est pas comme ça qu'on va répondre effectivement aux réels besoins. Et le personnel soignant est en burn-out et ne peut plus faire face. Alors, vous voyez que la situation, elle est quand même dramatique aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Alors, je vais revenir vers vous, Joël Le Gall, mais je voudrais poser une question à Brigitte Dormont par rapport à ce que vous disiez sur, finalement, ces familles qui peuvent peut-être retarder l'entrée en établissement parce que, justement, il y a une barrière qui est une barrière tarifaire. Est-ce que, finalement, ça ne provoque pas, là aussi, une sorte d'effet pervers, Brigitte Dormont? C'est-à-dire que, du coup, les personnes entrent peut-être trop tardivement dans des établissements qui leur serait mieux adapté, et puisqu'on parle quand même de financement et donc de coûts, ça finit par coûter plus cher que ça ne coûterait si ces établissements étaient plus accessibles.
Alors je crois que par rapport à ce qu'on a dit, on est tous d'accord sur le fait que il faut accepter, si on veut traiter correctement nos aînés, de mettre la main à la poche et de dépenser plus. Alors, par rapport à votre question, ça rejoint ma préoccupation, qui est qu'il y a encore un coût de prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées qui n'a pas été énoncé et qui est très important, qui est ce qu'on appelle l'aide informelle. Les personnes à domicile sont souvent prises en charge par leurs enfants, leurs familles, et dans des proportions considérables, ce qui a été évalué il y a une évaluation qui a été faite par des études du ministère qui disent c'est l'équivalent de 11 milliards d'euros. L'aide informelle correspond à peu près à un quart de toutes les dépenses associées à la prise en charge de la dépendance. Donc ça, c'est une évaluation monétaire de quelque chose qui est gratuit, qui est des soins gratuits.
Bon, il y a eu des mesures qui ont été prises avec la loi sur la société face au vieillissement, où il y avait notamment droit au répit qui avait été budgété 500 euros par an pour pouvoir permettre, pour placer une personne temporairement dans un établissement.
C'est ça. Donc l'idée, c'est que quand même, il y a un coût qui n'est pas évalué, qui est très important, qui n'est pas ce coût du répit, mais qui est le coût de tout ce travail gratuit réalisé par les filles, des personnes âgées. En général, 75%, ce sont les filles. Donc ce coût-là, il faut bien voir qu'en prospective, on pense que cette aide informelle va s'éroder considérablement à cause des effets démographiques et à cause du fait que les femmes vont être plus actives sur le marché du travail. Et donc les femmes qui auront 60 ans dans 20 ans, elles auront très difficilement la possibilité de prendre des journées et des après-midi de congé, sauf à perdre leur droit à la retraite de manière substantielle. Donc on pense que cette aide informelle va disparaître en partie. Et du coup, le défi à venir est encore plus important qu'on ne pense. Alors, ce que vous dites là sur retarder l'entrée en EHPAD, donc effectivement, c'est ce qui se passe en France. On observe que les gens retardent de plus en plus leur entrée en établissement et arrivent dans les établissements dans un état de dépendance de plus en plus avancé. Alors, le constat qui a été fait par le Conseil d'analyse économique dans une note consacrée à la dépendance, c'était qu'en France, on manquait de structures intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a le choix entre le domicile ou l'EHPAD hyper médicalisé pour personnes dans un état de dépendance très avancé. Or, pour rejoindre les préoccupations en termes de prévention de Madame Béra, c'est clair qu'on pense que, par exemple, des établissements qui sont des appartements thérapeutiques avec des encadrements permettraient de prévenir les chutes sans mobiliser à temps complet la famille et de retarder des accidents qui conduisent à une dépendance plus importante. Or, le constat qui avait été fait, c'est que la structuration de l'aide avec l'APA, l'hébergement et les dépenses de sécurité sociale ne permettait pas un choix optimal entre domicile et établissement et notamment ne permettait pas le développement de ces structures intermédiaires. Hein, donc, ce qui était proposé, c'était indépendamment de ces questions d'augmenter la dépense, c'était de changer la façon d'attribuer les prestations et notamment d'inclure l'hébergement qui, pour l'instant, je le dis, ces dépenses ne font l'objet d'aucune solidarité, donc d'inclure ces dépenses dans l'APA et de faire en sorte qu'il y ait des prestations en fonction des besoins qui soient attribuées, qui permettraient un choix plus optimal entre domicile et établissements qui ne sont pas forcément des établissements lourdement médicalisés comme le sont les EHPAD actuellement.
Alors pour revenir, Nora Béra, justement sur ce dispositif que vous aviez imaginé pour mettre en œuvre cette solidarité, mais dans le cadre d'un système hybride, je voudrais que vous nous réexpliquiez peut-être un petit peu plus précisément ce que vous aviez dans l'idée de mettre en œuvre lorsque vous étiez au gouvernement. Quelle était la part, on va dire, de la solidarité telle qu'on la connaît justement dans le cadre du système de la sécurité sociale, quelle était la part de la contribution qui revenait d'un point de vue plus assurantiel, en quoi ça consistait?
Alors donc on parle de l'APA et on est tous très contents qu'elle existe pour accompagner nos aînés et on a évoqué aussi les limites de cette recette qui ne permet pas la solvabilisation des personnes. Donc dans les travaux que j'avais conduits, donc il y avait tout un débat préalable dans le cadre de la mission Vivre chez soi, qui était de dire il faut respecter la volonté des aînés. Si elles choisissent de rester à domicile, il faut qu'on soit en mesure d'apporter l'aide adaptée pour le domicile. Si la personne âgée souhaite être institutionnalisé, il faut là aussi que les moyens soient à la hauteur pour l'accompagner dans un établissement. Alors, les réponses intermédiaires, alors il y a des résidences-services qui, là aussi, peuvent répondre à cette problématique. Mais toujours est-il que la solvabilisation est un problème parce que, à cause de ce reste à charge, il y a une disparité territoriale, qu'on soit à Paris ou dans la Creuse, on ne paye pas de la même manière, alors qu'on peut prétendre au même accompagnement, à la même qualité d'accompagnement. Donc, l'idée, c'était de dire, l'APA doit rester la couverture universelle telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle est plutôt rationnelle, parce qu'elle dépend des revenus et elle dépend du degré de dépendance. Mais au-delà de ça, j'imaginais mal, en effet, ouvrir une cinquième branche de la sécurité sociale. On voit les difficultés que rencontrent nos caisses sociales, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, de la caisse de retraite, qui, il faut le dire, la CNAV contribue aussi, pour les personnes légèrement dépendantes, à l'accompagnement. Tous les GIR5 relèvent de la caisse de retraite. Donc, la caisse de retraite contribue aussi. Donc, nos comptes sociaux étant de façon chronique déficitaire, j'imaginais mal imposer un prélèvement obligatoire, une contribution sociale de plus chez les actifs, qui sont de moins en moins, en tout cas, nombreux au regard de la démographie vieillissante.
Et donc, et la preuve d'ailleurs, ça a été promis et ça ne s'est jamais réalisé jusqu'à
exactement.
Présent.
Exactement. Donc l'idée, c'était d'être plutôt créatif, de rompre avec l'idée de l'assurance telle qu'elle est aujourd'hui proposée, parce que en fait, les organismes d'assurance essayent, c'est un marché très très juteux, donc il faut le dire, donc c'est un véritable business pour les assureurs. Et donc se dire, pourquoi pas faire un appel d'offres. L'État pourrait faire un appel d'offres après avoir élaboré un cahier des charges strict qui prévoit la rémunération, en tout cas pour les candidats à ce marché, donc en plafonnant aussi, en le rémunérant sur des critères de performance, et ça c'était très important de l'intégrer, sur des questions de prévention par exemple, et moyennant quoi une personne à partir de 50 ans, on peut faire varier les curseurs, mais à partir de 50 ans, proposer une contribution obligatoire pour abonder justement un fonds mutualisé et qui permette ensuite de délivrer des rentes aux personnes qui rentrent en dépendance, qui permettent de un fonds qui permette de dégager une solidarité pour les personnes dépendantes, mais qui n'auraient pas souscrit au moment du lancement justement de la réforme, qui n'auraient pas cotisé tout simplement, et qui pourraient être accompagnées, et qui permettrait de dégager aussi un budget pour réhabiliter, ouvrir des places dans les EHPAD, financer effectivement des nouvelles structures innovantes. Et tout ça permettrait effectivement de mettre en place une mission de service public grâce à des acteurs privés, mais qui répondent à un cahier des charges défini par l'État, avec une rémunération plafonnée, avec des critères de performance pour la rémunération, et qui pourraient être, là aussi, dans la gouvernance, dépendre d'un conseil d'administration avec les syndicats, avec une commission paritaire, hein, pourquoi pas. Étant tout à fait encadré.
Ça vous inspire quoi, Joëlle Le Gall?
Bah écoutez, je crois que vous avez dû comprendre, vous, Madame Dormoy et Madame Béra, que nous ne sommes pas du tout dans cette attente, hein, puisque nous réclamons haut et fort un droit universel à l'aide à l'autonomie. Pour que nos auditeurs puissent bien comprendre, je vais prendre deux exemples qui justifient ce que nous demandons concernant la suppression de cette barrière d'âge et que la perte d'autonomie soit financée à la hauteur des réels besoins, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux. Vous allez dans un établissement de personnes handicapées de moins de 60 ans, vous avez des ratios de personnel de 1 pour 1, quelquefois de 2 pour 1. Vous arrivez en EHPAD, les ratios de personnel sont globalement en France de 0,56 pour 1. L'APA est 4 fois en dessous de ce que vous donne la PCH, comme je disais tout à l'heure, si vous faites votre AVC avant 60 ans. Donc tout ça est une injustice terrible qu'il va falloir gommer, parce que ça n'est plus acceptable aujourd'hui. La personne âgée se retrouve dans une discrimination. On est contre le système assurantiel. Ça aussi, vous avez dû le comprendre dans le débat qu'on a eu. Nous sommes tout à fait contre le système assurantiel. Nous voulons effectivement qu'il y ait une réflexion d'une allocation ou d'un financement unique prélevé sur tous les citoyens, d'accord. Mais écoutez, franchement, notre gouvernement actuel, il a beaucoup d'imagination pour aller favoriser certaines classes de la société. Il n'a pas d'imagination pour trouver des sous pour s'occuper de la situation des personnes âgées en perte d'autonomie aujourd'hui. Honnêtement, je crois qu'il faut savoir aussi où distribuer les bonnes choses.
Brigitte Dormont, c'est un problème d'imagination, c'est un problème de volonté politique. Pourquoi c'est si compliqué finalement? C'est-à-dire, ces questions de dépendance, de perte d'autonomie, elles sont pas nouvelles. Enfin, on sait justement avec les projections démographiques notamment, quels vont être les besoins. Pourquoi c'est si compliqué finalement?
C'est pas compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué techniquement, mais le verrou ici, il est politique. C'est-à-dire que les citoyens votent pour des candidats qui annoncent dans leur programme une baisse des prélèvements obligatoires. Donc là, il y a une préférence, enfin tout le monde est schizophrène, c'est-à-dire que personne n'aime consacrer une part croissante de son revenu personnel à des dépenses d'impôts ou de cotisations. En même temps, on a envie qu'il y ait de la solidarité en France. Tous les citoyens répondent au sondage en disant « on veut des services publics, on veut de la solidarité ». La contrepartie, c'est qu'effectivement, il faut mettre la main à la poche. Alors, il y a un problème de niveau de dépense, comme on l'a dit au début, et il y a un problème de solidarité de la dépense. Et donc, la différence entre assurance privée de dépendance qu'on a jusqu'à présent et qu'on considère être un échec, cinquième risque, c'est cette question de la solidarité. Donc actuellement, on a un système intermédiaire, c'est-à-dire que l'APA, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même de la solidarité, puisque les cotisations sont proportionnelles aux revenus des individus. Enfin, c'est 0,3% de la masse salariale, 0,3% des revenus du capital et des retraites depuis récemment. Donc il y a une certaine solidarité par la contribution, et puis les prestations sont en fonction des besoins, mais diminuent avec le revenu. Donc il y a quand même de la solidarité, mais qui est limitée. Donc le cinquième risque, ça voudrait dire des prestations en fonction des besoins. Donc vraiment, on avancerait plus loin dans la solidarité. Alors si on dit, il faut donc sur le système imaginatif que vous mentionnez tout à l'heure, moi ce que j'en comprends, c'est que c'est quand même des contributions obligatoires, donc ça ne change rien à est-ce que c'est une cotisation obligatoire sous forme de cotisation avec un cinquième risque, ou si c'est une assurance privée obligatoire,
non,
ça ne change rien.
Ce n'est pas une assurance privée obligatoire et ce n'est pas une contribution telle que vous l'imaginez, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le ratio actif-retraité étant devenant, avec le temps, devenant paritaire dans les années au moment du papy boom, il va falloir préserver les générations futures. Donc les jeunes ne comprendraient pas qu'on vienne encore les ponctionner. Donc il y a une question.
Un prélèvement sur les gens de 50 ans et plus. Obligatoire.
Exactement,
sur les gens de 50
absolument.
Ans et plus. D'accord. Ok. Donc ça, bon, ça se discute. Je oui. suis d'accord. Mais il y a la même idée de prélèvement obligatoire. Il y a la même idée de prélèvement obligatoire. Et ça, je crois que actuellement, le débat consiste à dire soit on continue à maltraiter nos aînés, soit on met un peu plus de cotisations. Effectivement,
en tout cas, il faut une solidarité forte, nationale.
Voilà. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir contribué justement à alimenter ce débat ce soir. Merci Nora Béra, merci Brigitte Dormont et merci à Joël Le Gall pour cette discussion que vous pourrez réécouter comme chaque soir sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jacques Hubert. Arnaud Laporte, vous allez bientôt être commande de la dispute. Dans 3 minutes, je vous l'annonce, vous ne le saviez pas. Et vous allez parler de littérature ce soir.
C'est une merveilleuse nouvelle, oui, nous allons parler de littérature. De quoi va-t-on parler dans le Club des Idées demain ?
De la réforme des institutions. Et je précise, attention, nous ne serons pas au Bel Air comme les autres vendredis.
Ne pointez pas du doigt comme ça.
Arnaud Laporte, c'est pour que vous n'oubliez pas. Hein, ce sera en studio.
Oui, je l'ai appris par hasard.
Voilà. Je précise à nos auditrices et à nos auditeurs, ne venez pas au Bel Air, vous ne nous verrez pas.
Vous pouvez y aller, hein, ils sont charmants.
Mais je suis pas sûr que ce sera ouvert. On verra. Bref,
c'est absolument ouvert, Hergé. Il ne faut pas détourner nos auditeurs, ils peuvent nous écouter avec un casque sur les oreilles au Bel Air, nous on sera en studio.
D'accord,
allez,
voilà,
19h, France Culture, les titres de l'actualité, Aurélie Kiefer.